Chapitre 18. Une révolution permanente. La révolution industrielle a ouvert des voies nouvelles pour transformer l'énergie et produire des biens, libérant largement l'humanité de sa dépendance envers l'écosystème environnant. Les hommes ont abattu des forêts, drainé des marécages, endigué des fleuves, inondé, posé des dizaines de milliers de kilomètres de voies ferrées et construit des métropoles de gratte-ciel. Le monde étant façonné pour répondre aux besoins d'Homo sapiens, des habitats ont été détruits, des espèces se sont éteintes. Jadis bleue et verte, notre planète se transforme en un centre commercial de béton et de plastique. Aujourd'hui, les continents abritent près de 7 milliards de sapiens. Si vous preniez tous ces gens pour les placer sur le plateau d'une balance, leur masse combinée tournerait autour de 300 millions de tonnes. Prenez ensuite tous nos animaux de ferme domestiqués, vaches, cochons, moutons et poulets, et pesez-les. Leur masse tournerait autour de 700 millions de tonnes. À titre de comparaison, la masse combinée de tous les grands animaux sauvages survivants, des porcs-épics et des pingouins aux éléphants et aux baleines, ne dépasse pas 100 millions de tonnes. Nos livres d'enfants, notre iconographie et nos écrans de télévision sont encore pleins de girafes, de loups et de chimpanzés, alors qu'en réalité, il en reste fort peu. On compte à peu près 80 000 girafes, contre 1,5 milliard de bestiaux. Juste 200 000 loups gris pour 400 millions de chiens domestiques. Et seulement 250 000 chimpanzés contre plusieurs milliards d'êtres humains. L'humanité a réellement pris possession du monde. Dégradation écologique et rareté des ressources sont deux choses différentes. Les ressources à la disposition de l'humanité, voir le chapitre 17, ne cessent de croître et continueront probablement sur cette lancée. Aussi, les prophètes de malheur qui invoquent la rareté des ressources se fourvoient-ils vraisemblablement? À l'opposé, la peur de la dégradation écologique n'est que trop fondée. L'avenir pourrait bien voir Sapiens prendre le contrôle d'une corne d'abondance de matériaux nouveaux et de nouvelles sources d'énergie, tout en détruisant simultanément ce qu'il reste de l'habitat naturel et en provoquant l'extinction de la plupart des autres espèces. En vérité, le chambardement écologique pourrait mettre en danger la survie même de l'Homo sapiens. Le réchauffement climatique, la fonte de la calotte glaciaire, la montée des océans et la pollution généralisée pourraient rendre la Terre moins hospitalière aux nôtres. Dès lors, l'avenir pourrait nous réserver une spirale infernale, une course-poursuite entre la puissance de l'homme et les catastrophes naturelles qu'il provoque. En utilisant leur pouvoir pour contrer les forces de la nature et soumettre l'écosystème à leurs besoins et caprices, les hommes pourraient bien causer de plus en plus d'effets pervers imprévus et dangereux. Probablement ne pourrait-on en venir à bout qu'au prix de manipulations plus drastiques encore de l'écosystème qui ne manquerait pas de produire un chaos encore pire. Beaucoup parlent à ce propos de destruction de la nature. Or, c'est moins une destruction qu'un changement. La nature ne saurait être détruite. Voici 65 millions d'années, un astéroïde fit disparaître les dinosaures, mais, ce faisant, ouvrit la voie aux mammifères. De nos jours, l'humanité pousse maintes espèces à l'extinction. Elle pourrait même s'anéantir. Mais d'autres organismes s'en tirent fort bien. Rats et cancrelats, par exemple, connaissent leur âge d'or. Ces créatures tenaces réussiraient probablement à s'extraire des décombres fumants d'un armageddon nucléaire, prêt à répandre leur ADN. Dans 65 millions d'années, peut-être, des rats intelligents nous sauront gré de la décimation opérée par l'humanité, de même que nous pouvons remercier aujourd'hui l'astéroïde qui a éliminé les dinosaures. Reste que les rumeurs de notre extinction sont prématurées. Depuis la révolution industrielle, la population mondiale a proliféré comme jamais. En 1700, le monde comptait 700 millions d'habitants. En 1800, nous étions 950 millions. En 1900, ce chiffre avait presque doublé pour atteindre 1,6 milliard. La population a encore quadruplé pour atteindre 6 milliards de sapiens en 2000 et un peu moins de 7 actuellement. Temps moderne. Si tous ces sapiens sont de plus en plus imperméables aux caprices de la nature, ils sont devenus toujours plus soumis aux diktats de l'industrie moderne et de l'État. La révolution industrielle a ouvert la porte à une longue chaîne d'expériences de génie social et à une série plus longue encore de changements non prémédités touchant la vie quotidienne et les mentalités. Un exemple parmi tant d'autres est le remplacement des rythmes de l'agriculture traditionnelle par le calendrier uniforme et précis de l'industrie. L'agriculture traditionnelle reposait sur les cycles du temps naturel et de la croissance organique. La plupart des sociétés n'étaient pas capables de mesures précises du temps et, au demeurant, ne s'y intéressaient guère. Le monde vaquait à ses occupations sans horloge ni horaire, juste sujet au mouvement du soleil et au cycle de croissance des plantes. Il n'y avait pas de journée de travail uniforme et les routines changeaient radicalement d'une saison à l'autre. Les gens savaient où était le soleil. Ils guettaient anxieusement les signes annonciateurs de la saison des pluies et du temps de la récolte, mais ils ne savaient pas l'heure et n'avaient cure de l'année. Si un voyageur dans le temps, égaré, surgissait dans un village médiéval et demandait à un passant « En quelle année est-on ?» Le manant aurait été médusé par la question de l'étranger, autant que par son accoutrement ridicule. Au contraire des paysans et cordonniers du Moyen-Âge, l'industrie moderne se soucie peu du soleil ou des saisons. C'est la précision et l'uniformité qu'elle sanctifie. Dans un atelier médiéval, par exemple, chaque cordonnier faisait la totalité du soulier, de la semelle à la boucle. Si l'un prenait du retard dans son travail, il ne paralysait pas l'autre. Sur la chaîne de montage d'une usine moderne, en revanche, chaque ouvrier fait marcher une machine qui ne produit qu'une petite partie de la chaussure, puis la fait passer à la machine suivante. Si l'ouvrier de la machine numéro 5 a eu une panne d'oreiller, il bloque toutes les autres machines. Pour empêcher de telles calamités, tout le monde est astreint à des horaires précis. Chaque ouvrier doit être à son poste à la même heure. Tous font la pause repas à l'unisson, qu'ils aient faim ou non. Tout le monde rentre à la maison quand un coup de sifflet annonce la fin de la journée du travail, non pas quand le projet est terminé. La révolution industrielle fit des horaires et de la chaîne de montage le gabarit de toutes les activités humaines. Peu après que les usines eurent encadré le comportement des employés par leurs horaires, les écoles adoptèrent à leur tour des horaires précis, suivis par les hôpitaux, l'administration publique et les épiceries. Jusque dans les endroits sans travail à la chaîne ni machine, l'horaire devint roi. Si le travail à l'usine s'arrête à 17h, le pub du coin a tout intérêt à ouvrir à 17h02. Les transports publics ont été un maillon crucial dans la propagation du système des horaires. Si les ouvriers devaient être à leur poste à 8h, le train ou le bus devait les déposer à la porte de l'usine à 7h55. Un retard de quelques minutes nuirait à la production et pourrait même conduire à la mise à pied des malheureux retardataires. En 1784, commença à opérer en Grande-Bretagne un service de voiture avec des horaires publics. Ceci n'indiquait que l'heure de départ, pas celle d'arrivée. En ce temps-là, chaque ville ou chaque bourg avait son heure locale, laquelle pouvait différer de celle de Londres d'une bonne demi-heure. Quand il était midi à Londres, il pouvait être 12h20 à Liverpool et 11h50 à Canterbury. Comme il n'y avait ni téléphone, ni radio, ni télévision, et pas de train rapide, qui pouvait savoir et qui s'en souciait? La première liaison ferroviaire commerciale ouvrit en 1830 entre Liverpool et Manchester. 10 ans plus tard, sortaient les premiers horaires. Les trains étaient beaucoup plus rapides que les vieux attelages, en sorte que les étranges différences d'heures locales devinrent une grande nuisance. En 1847, les compagnies ferroviaires britanniques se concertèrent et convinrent que les horaires des trains seraient désormais calibrés sur l'heure de l'observatoire de Greenwich, plutôt que sur les heures locales de Liverpool, Manchester ou Glasgow. De plus en plus d'institutions suivirent l'exemple des compagnies ferroviaires. Puis, en 1880, le gouvernement britannique prit enfin une mesure sans précédent. La loi imposa à tous de se régler sur l'heure de Greenwich. Pour la première fois de l'histoire, un pays adopta une heure nationale et obligea sa population à se régler sur une horloge artificielle plutôt que sur l'heure locale ou les cycles du lever et du coucher du soleil. Ce modeste commencement engendra tout un réseau mondial d'horaires, synchronisé jusqu'à la plus infime fraction de seconde. Quand la radiodiffusion, puis la télévision firent leur début, elles entrèrent dans un monde d'horaires dont elles devinrent les principales exécutantes et évangélistes. Les signaux horaires furent parmi les premières choses diffusées par les stations de radio. Des bips qui permettaient aux populations isolées ou aux navires en mer de régler leurs horloges. Plus tard, les stations de radio prirent pour habitude de diffuser des bulletins d'information toutes les heures. De nos jours, chaque bulletin s'ouvre immanquablement par l'heure, qui importe même davantage que le déclenchement d'une guerre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, BBC News diffusait en direction de l'Europe sous occupation nazie. Chaque bulletin d'info commençait par la retransmission en direct des cloches de Big Ben, le son magique de la liberté. D'ingénieux physiciens allemands trouvèrent le moyen de savoir quel temps il faisait à Londres en se fondant sur les infimes différences de ton des ding-dongs retransmis. Cette information fut d'une aide précieuse à la Luftwaffe. Quand les services secrets britanniques s'en aperçurent, ils remplacèrent la retransmission en direct par un enregistrement de la fameuse horloge. La bonne marche du réseau d'horaires supposait l'omniprésence d'horloges portables bon marché, mais précises. Dans les villes assyriennes, sassanides ou incas, il y avait tout au plus des cadrans solaires. Dans les villes européennes du Moyen-Âge, il n'y avait généralement qu'une horloge, une horloge géante montée au sommet d'une grande tour sur la place. Ces horloges de tour étaient notoirement inexactes, mais comme il n'y avait pas d'autres horloges en ville pour les contredire, c'était sans grande importance. Aujourd'hui, une famille aisée compte plus de montres ou d'horloges à la maison qu'un pays tout entier au Moyen-Âge. Pour savoir l'heure, il suffit de regarder sa montre-bracelet, de jeter un coup d'œil à son Android, de consulter le réveil à son chevet ou l'horloge au mur de la cuisine, de se pencher sur le micro-ondes, d'allumer la télévision ou de passer un DVD, ou encore de penser à regarder la barre d'étage de notre ordi du coin de l'œil. Pour ne pas savoir l'heure qu'il est, il faut vraiment le vouloir. L'homme moyen consulte l'heure des douzaines de fois par jour, parce que presque tout ce que nous faisons doit être fait à l'heure. Le réveil sonne à 7 heures. Nous passons le petit pain surgelé 50 secondes au micro-ondes, nous nous brossons les dents 3 minutes jusqu'au bip, puis filons attraper le train de 7h40 qui nous conduira au boulot. La journée terminée, nous nous accordons une demi-heure d'exercice sur le tapis de jogging jusqu'à ce que le beeper annonce que la demi-heure est terminée. Puis, nous nous postons devant la télé à 19h pour regarder notre émission favorite, interrompue par des pubs qui coûtent 1 000 $ la seconde. Et finissons par vider toute l'angoisse accumulée dans le cabinet d'un thérapeute qui restreint notre babillage à la séance désormais standard de 50 minutes. La révolution industrielle a produit des douzaines de bouleversements majeurs dans la société humaine. L'adaptation à l'heure industrielle n'en est qu'un exemple. Il en est d'autres notables. L'urbanisation, la disparition de la paysannerie, l'essor du prolétariat industriel, l'octroi de droits à l'homme ordinaire, la démocratisation, la culture de la jeunesse et la désintégration du patriarcat. Mais tous ces chambardements ne sont rien en comparaison de la révolution sociale la plus capitale qu'ait jamais connue l'humanité, l'effondrement de la famille et de la communauté locale remplacée par l'État et le marché. Pour autant qu'on puisse le dire, depuis les temps les plus reculés, voici 1 million d'années, les hommes ont toujours vécu en petites communautés intimes, essentiellement formées de parents. La révolution cognitive et la révolution agricole n'y avait rien changé. Elles agglutinèrent familles et communautés pour créer tribus, cités, royaumes et empires, mais les familles ou les communautés restèrent l'élément de base de toutes les sociétés humaines. En revanche, en un peu plus de 2 siècles, la révolution industrielle réussit à atomiser ces éléments. Les États et les marchés ont repris la plupart des fonctions traditionnelles des familles et des communautés.